Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 15 août 2024. Au Burkina Faso, des magistrats ont été réquisitionnés pour aller servir au front, mais un tribunal a jugé illégal ces réquisitions.
Peut-on envoyer des civils qui n'ont pas en réalité appris à manier les armes, qui ne sont pas des militaires à aller lutter contre des djihadistes aguerris qui sont dans le combat depuis des années?
Sengane Senghor, avocat et membre de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, réagira à ces réquisitions dans la partie magazine. L'armée soudanaise a choisi la politique de la chaise vide aux discussions de paix de Genève en dépit de l'invitation de Washington. La France rend hommage aux soldats africains lors du 80e anniversaire du débarquement de Provence. La Maison-Blanche évoque un début prometteur des discussions sur un cessez-le-feu à Gaza. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, des magistrats ont été réquisitionnés pour aller servir au front. Selon l'ordre de réquisition, ils devront participer aux opérations de sécurisation du territoire auprès du groupement de forces de sécurisation du Nord basé à Kaya, à une centaine de kilomètres de la capitale. Seulement, un tribunal administratif juge illégal ces réquisitions de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Leur nombre jusque-là n'est pas déterminé, varie entre 2 à 5 magistrats réquisitionnés, dont un procureur et son substitut à Bobo Dioulasso. Les ordres de réquisition des magistrats sont tombés la semaine dernière. Les réquisitionnés doivent rejoindre le front dans le nord du pays pour 3 mois renouvelables. Les réquisitions sont signées par le commandant du commandement des opérations nationales. On ne connaît pas pour l'heure les raisons de ces réquisitions, mais une certaine opinion pense que ces magistrats ont dû rendre des décisions allant à l'encontre des proches du pouvoir. Et justement, en audience de référé, le tribunal administratif de Bobo Dioulasso a déclaré que les ordres de réquisition sont manifestement illégaux et portent atteinte aux libertés fondamentales des personnes concernées. Hier, le journal L'Événement a annoncé faire une pause malgré lui, car il est sans nouvelles de son directeur de publication depuis sa disparition. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les discussions pour un cessez-le-feu au Soudan se poursuivent en Suisse avec les paramilitaires sans la présence de l'armée soudanaise qui refuse de participer aux négociations. Washington dit s'attendre à des résultats tangibles. Nani Talani.
La 2e journée de nos pourparlers sur le Soudan est en cours. Nous continuons à travailler sans relâche avec nos partenaires pour sauver des vies et nous assurer que nous obtenons des résultats tangibles, a déclaré ce jeudi l'envoyé spécial américain pour le Soudan, Tom Perriello, insistant qu'il veut obtenir des résultats tangibles. Washington a de nouveau appelé l'armée soudanaise à se joindre aux discussions, soulignant qu'il était de la responsabilité de l'armée d'être présente. Par la voix de son ministre des Finances, Dibril Ibrahim, l'armée soudanaise a une nouvelle fois rejeté ce jeudi l'invitation. Selon Dibril Ibrahim, le gouvernement soudanais ne va pas accepter une médiation imposée par la force et ne va pas participer à des négociations visant à légaliser l'occupation d'installations civiles par la milice criminelle et à garantir à l'avenir sa place sur la scène politique et sécuritaire.
Des experts de l'ONU ont demandé aujourd'hui au Zimbabwe de libérer 3 militants pro-démocratie détenus arbitrairement depuis 2 semaines avant un sommet prévu samedi à Harare. Les experts exigent la libération de la défenseure des droits humains, Namate Kwekweza, du dirigeant syndical enseignant Robson Chéré et de l'ancien conseiller municipal de l'opposition à Harare, Samuel Gwenzi. Un tribunal doit statuer sur leur libération sous caution demain vendredi, à la veille du sommet des chefs d'État de la SADC. En France, le président Emmanuel Macron et des homologues africains se sont réunis aujourd'hui à Bolloré-sur-Mer pour commémorer le 80e anniversaire de l'opération Dragoon en Provence, par laquelle les tirailleurs africains ont contribué à la libération de la France. Nathalie Barge.
Les présidents français Emmanuel Macron et camerounais Paul Biya ont rendu hommage aux soldats français, africains et venus d'autres continents pour le débarquement de Provence il y a 8 décennies. Emmanuel Macron.
Africains, ces soldats français d'Afrique dont certains des vétérans se tiennent devant nous et devant lesquels je m'incline.
Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans les étrangers, les tirailleurs d'Afrique, a déclaré pour sa part Paul Biya à la nécropole internationale de Boulouris-sur-Mer.
Partout où les combats les ont menés, ces malheureux soldats venus d'Afrique occidentale ou de l'Afrique équatoriale, de Madagascar ou de l'océan Indien se sont magnifiquement illustrés. Ils ont, en revanche, payé un très lourd tribut pour la victoire.
5 anciens tirailleurs ont été invités à la nécropole de Boulouris, où reposent 464 soldats tués sous l'uniforme français en août 1944. Après les discours, M. Macron a remis la Légion d'honneur à 6 anciens combattants, dont un étranger. Les dirigeants ont déjeuné ensuite à bord d'un porte-hélicoptère. Le Burkina Faso devait être représenté par un chargé d'affaires, mais le Niger, le Mali et l'Algérie n'ont pas envoyé de représentants à cette cérémonie.
Au Tchad, au moins 54 personnes ont perdu la vie dans des inondations qui ont affecté la province du Tibesti, dans l'extrême nord désertique du pays, région touchée par des inondations depuis vendredi, ont annoncé les autorités locales. Des milliers de boutiques et des véhicules ont été emportés par les eaux de pluie du 9 au 14 août 2024, a déclaré le général Mamat Touchichidi, gouverneur de la province du Tibesti. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 7 civils, dont 4 enfants, ont été tués à la suite d'une attaque d'hommes armés non identifiés contre un camion de transport. Après l'attaque, un engin explosif qui traînait là-bas a été ramassé par les enfants. Ces derniers ont cru que c'était un jouet et l'engin a explosé. 4 enfants sont donc décédés sur place. Le chauffeur du camion et au moins un passager ont été tués au moment de l'attaque. L'épidémie de Mpox a fait 548 morts en République démocratique du Congo depuis le début de l'année et touche désormais toutes les provinces, a annoncé ce jeudi le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba. Et puis hors du continent, une personne vivant dans la région de Stockholm en Suède a été diagnostiquée comme porteuse du sous-type clade 1 du virus du Mpox, plus contagieux et dangereux. Une première hors d'Afrique, a annoncé aujourd'hui l'Agence suédoise de santé publique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des discussions cruciales ont débuté aujourd'hui au Qatar en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas à Gaza. La pression s'intensifiant pour éviter une extension de cette guerre qui a fait plus de 40 000 morts dans le territoire palestinien, selon le mouvement islamiste. Davantage avec Alexandrine Ollognon.
Il reste beaucoup à faire. Nous ne prévoyons pas de sortir des négociations aujourd'hui avec un accord, a déclaré à Washington le porte-parole du Conseil de sécurité nationale John Kirby, qui a tout de même évoqué un début prometteur des discussions, ajoutant s'attendre à ce qu'elles continuent vendredi. Après des mois de pourparlers infructueux, les nouvelles discussions se tiennent à l'appel des médiateurs, le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, en présence du directeur de la CIA, William Burns, des chefs des services de renseignement extérieur et intérieur israéliens. Le Hamas refuse d'y participer et réclame l'application du plan Biden. Le 31 mai, le président Joe Biden a annoncé ce plan qui prévoit dans une première phase une trêve de 6 semaines, accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et la libération d'otages enlevés depuis l'attaque du 7 octobre contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël.
Kiev a revendiqué aujourd'hui de nouvelles avancées dans la région russe de Koursk au 9e jour de son offensive, l'armée russe assurant pour sa part y avoir repris un village et capturé un autre dans l'est de l'Ukraine. Le commandant de l'armée ukrainienne, Oleksandr Selsky, a revendiqué une progression de 35 km en profondeur pour un contrôle total de 1150 km². Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a proposé la création d'un organisme consultatif avec la Corée du Nord afin de discuter des moyens d'apaiser les tensions et de reprendre la coopération économique entre les deux pays lors d'un discours prononcé à l'occasion du jour de la libération qui célèbre la fin de l'occupation coloniale de la péninsule coréenne par le Japon le 15 août 1945. Yoon Suk-yeol s'est dit prêt à entamer une coopération économique et politique avec la Corée du Nord si Pyongyang faisait un pas vers la dénucléarisation. Et puis Joe Biden et Kamala Harris font pour la première fois campagne ensemble ce jeudi. Tous deux vont célébrer dans le Maryland, un état frontalier de la capitale Washington, une baisse historique du prix de 10 médicaments contre le diabète, les caillots sanguins ou les troubles communs cardiaques annoncés dans un communiqué commun. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Michel Joseph.
En RDC, les autorités du Sud-Kivu ont levé ce jeudi la suspension des activités minières, à l'exception de l'extraction de l'or, et vont poursuivre des consultations avec les différents acteurs de l'industrie aurifère et d'autres opérateurs miniers. L'objectif est de transformer le secteur minier en un véritable levier de stabilité, de création de richesses pour tous dans le Sud-Kivu, indique le gouverneur de cette province dans l'est de la RDC. Le Cameroun a signé un contrat d'exploitation de bauxite d'au moins 2 milliards de dollars avec Calmaco, une filiale du groupe australien Canyon Resources. Selon un accord initial de 20 ans, Calmaco va travailler à la mine de Minim Martap sur les plateaux de Béatrice, Raymond et Daniel dans le nord du Cameroun pour exploiter 99 millions de tonnes de réserves prouvées de bauxite avec 52% d'alumine et 2,4% de silice. Le Conseil des ministres de Côte d'Ivoire vient d'approuver la signature d'accords de partage de production avec Eni, la compagnie pétrolière italienne portant sur 4 blocs. Au moins 80 millions de dollars seront investis au cours d'une période initiale d'exploration de 3 ans. Eni a commencé à produire du pétrole en Côte d'Ivoire l'an dernier sur le champ de Baleine, dont les réserves sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole et à 3,3 trillions de pieds cubes de gaz naturel.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Début ce jeudi des qualifications zonales COSAFA de la Ligue des champions féminines de la CAF à Blantyre au Malawi.
Les Green Buffaloes de la Zambie, qui se sont déjà qualifiées pour la phase finale continentale, rejoindront les 7 autres équipes des qualifications zonales COSAFA ainsi que les hôtes à Saint Soccer Academy qui font leur début dans les qualifications zonales. Les équipes sont réparties en deux groupes. University of Western Cape de l'Afrique du Sud, Green Buffaloes de la Zambie, Orientals Queens du Zimbabwe, FC Angos de la Namibie sont dans le groupe A. Le groupe B inclut Gaborone United du Botswana, Unyayo Desportiva de Litinga du Mozambique, Ascent Soccer Academy du Malawi et puis Young Buffaloes de l'Eswatini. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales.
Football féminin toujours, les qualifications de la Ligue des champions féminines de la WAFU Zone B ont été marquées hier par des victoires éclatantes de l'AO Étincelle du Burkina Faso et des Nigérians d'Edo Queens dans le groupe B.
L'AO Étincelle a livré une performance de maître écrasant l'AS Garde du Niger sur le score de 6-1 au stade de Boaké annexe en Côte d'Ivoire. Dans l'autre match de la journée, les Ghanéennes de Hasakas Ladies ont subi un revers dans leur campagne, s'inclinant 3-0 face à une équipe clinique d'Edo Queens venue du Nigeria. Ce résultat place Edo Queens en tête du groupe B avec le maximum de points en deux matchs, préparant le terrain pour un dernier match de groupe passionnant contre l'AO Étincelle. Les espoirs de qualification de Hasakas Ladies sont quant à eux en jeu alors qu'elles se préparent à affronter la S-Garde lors de leur dernier match de groupe.
Pour terminer, Nanit, en Angleterre, Tottenham suspend pour un match l'Ivoiro-Malien Yves Bissouma après une vidéo polémique.
La sanction annoncée ce jeudi par l'entraîneur Ange Postecoglou a été prise après que le milieu malien Yves Bissouma, né en Côte d'Ivoire, a posté samedi une vidéo sur Snapchat dans laquelle il apparaît en train d'inhaler à l'aide d'un ballon du gaz hilarant aux effets psychoactifs. La possession de protoxyde d'azote pour un usage récréatif constitue un délit depuis 2023 au Royaume-Uni et peut conduire à 2 ans d'emprisonnement. Le joueur de 27 ans s'est excusé pour ce grave manque de discernement dans un communiqué. Mais trop tard, l'ancien joueur de Lille et de Brighton, titulaire régulier chez les Spurs, manquera le premier match de la saison de Premier League contre Leicester lundi.
Page de sport VOA Afrique signée Nanit Talani.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, des magistrats dont le nombre reste à déterminer ont été réquisitionnés pour servir au front et participer aux opérations de sécurisation du territoire. Le tribunal de Bobo-Dioulasso a jugé ces réquisitions illégales. Des militants des droits humains, des avocats et journalistes jugés critiques à l'égard de la junte ont été déjà réquisitionnés. D'autres sont portés disparus, comme Atiana Serge Houlon, directeur de publication du journal L'Événement, qui a annoncé faire une pause malgré lui, car il est sans nouvelles de son patron depuis sa disparition. Nani Talani a contacté Sengane Senghor, avocat et membre de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme à Dakar au Sénégal.
Il y a deux angles d'analyse possibles. L'une des angles d'analyse, c'est peut-être qu'on veut montrer à tous les Burkinabés, à la face du monde entier, que nous sommes des citoyens égaux, et encourager aussi tout le reste, les autres citoyens, à accepter cet état de fait et à accepter d'aller être rengagés pour aller lutter contre le djihadisme. L'autre angle d'analyse, c'est peut-on envoyer des civils qui n'ont pas en réalité appris à manier les armes, qui ne sont pas des militaires, à aller lutter contre des djihadistes aguerris qui sont dans le combat depuis des années. Ça, c'est créer un mouroir et c'est en réalité les envoyer à une mort presque certaine.
Le tribunal de Bobo-Dioulasso a jugé illégale la réquisition des magistrats. Quelle peut être l'importance de cette décision ? Pourra-t-elle protéger les magistrats et d'autres civils contre des réquisitions forcées ?
Et il est tout à fait aussi logique et légal que la justice burkinabé ait déclaré cette réquisition illégale. C'est une façon de mettre en garde l'État pour demander à l'État de ne pas utiliser la force pour envoyer ces magistrats-là au front. Et ça, c'est dangereux dans une situation de ce genre, parce qu'on risque d'envoyer tous ces citoyens, les intellectuels qui un peu critiquent, s'érigent en bouclier contre la situation actuelle des pays. On peut les envoyer au front pour les faire tuer. Parce que, disons les choses telles qu'elles, utilisons les mots, c'est en réalité cela. Cette affaire de djihadisme ne peut pas être combattue de la manière que les autorités burkinabées et même les autres pays de la sous-région utilisent. Cette affaire-là, elle est tellement sérieuse, elle a tellement pris de l'ampleur que c'est des cadres comme la CEDEAO, l'Union africaine ou même les Nations unies qui doivent se saisir de la question, y réfléchir et chercher de bonnes solutions.
Le journal L'Événement a annoncé une pause malgré lui car il est sans nouvelles de son directeur de publication, Serge Atiana Houlon, disparu depuis plusieurs jours. Quelles peuvent être les implications de tout ceci sur la liberté de la presse, mais aussi sur la liberté individuelle au Burkina Faso?
Ça menace directement la liberté de presse, parce que si les journalistes sont dans une certaine situation, dans une certaine peur, ils sont incapables de faire leur travail correctement. Et quand la presse s'effondre, il faut savoir que c'est le reste de la démocratie qui s'effondre. Déjà, on sait qu'aujourd'hui, il est difficile au Burkina de respecter certaines libertés, les libertés fondamentales, parce que ce qui s'est passé avec les magistrats, ce qui se passe avec les journalistes, ce qui se passe avec beaucoup de cercles au Burkina, c'est tout simplement une violation flagrante et manifeste des libertés fondamentales. La liberté fondamentale est menacée au Burkina, la démocratie elle est menacée au Burkina, et ça expose toute la société.
Sengane Senghor, avocat et membre de la RADO à Dakar au Sénégal. Alors que le Gabon approche du premier anniversaire du coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba, les partisans du chef militaire qui dirige la transition l'exhortent à se présenter à l'élection présidentielle d'août 2025, censée rétablir un régime civil. Les opposants au général Brice Oligui Nguema affirment qu'il complote pour s'emparer du pouvoir à long terme et transformer le Gabon en dictature militaire. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis le Cameroun, le récit avec Michel Joseph.
Le coup de la libération.
Force de défense et de sécurité. On
L'armée gabonaise invite les civils à se mobiliser en masse le 30 août pour célébrer ce que le chef militaire de ce pays d'Afrique centrale appelle la journée de la libération nationale. Le message, diffusé en boucle à la télévision nationale, rappelle que ce jour-là, l'armée gabonaise a pris le pouvoir lors d'un coup d'État sans effusion de sang pour sauver le pays d'une grave crise politique, économique et institutionnelle. Le colonel Ulrich Mamfumbi est le porte-parole du gouvernement de transition. Il affirme que les chefs militaires utilisent le 30 août comme une journée annuelle de célébration pour remercier les troupes qui ont effectué le changement de direction sans tuer de civils ni détruire de biens.
La crédibilité que la population nous accorde tient du fait que ce chronogramme de la transition est respecté, est scrupuleusement respecté. Il vous souviendra que dès le 30 août, nous avons procédé à la dissolution de toutes les institutions. Et progressivement, nous avons mis en place un gouvernement de la transition, une Assemblée nationale de la transition, un Sénat de la transition, une Cour constitutionnelle de la transition, et j'en passe. Il y a eu ce dialogue national qui a été tant attendu par les populations gabonaises.
Cependant, Pelagi Marie-Joselle Itsana, qui dirige le mouvement panafricain pour l'unité du peuple gabonais, a un point de vue différent. Elle affirme que le général Brice Oligui Nguema manipule les groupes d'opposition pour rester au pouvoir.
Nous voyons dans la rue des militaires et ça nous donne effectivement l'impression que nous sommes dans un régime spécial. Est-ce que c'est reluisant? Mais je pense pas qu'il manque des cadres pour penser qu'il n'y a que des PDGistes qui pourront sortir ce pays de l'ornière. Quand vous avez échoué pendant plus de 50 ans, vous ne pouvez pas être la solution.
Mamfumbi, le porte-parole du gouvernement, a rétorqué qu'en un an, le général Oligui Nguema a étendu l'approvisionnement en eau et en électricité à plusieurs dizaines de villes et villages, construit des hôpitaux et des écoles, amélioré les infrastructures routières, fourni plusieurs milliers d'emplois à des jeunes chômeurs et combattu sans pitié la corruption, en particulier parmi les fonctionnaires et les politiciens du Gabon. Cette semaine, la télévision d'État gabonaise a rapporté que des dizaines de groupes de l'opposition et de la société civile demandent au général Nguema de se présenter à l'élection présidentielle prévue dans un an. Le gouvernement de transition répond que, le moment venu, le Gabon va organiser des élections libres, justes et crédibles. La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
La recrudescence du Mpox en RDC dans un nombre croissant de pays d'Afrique a poussé l'OMS à déclencher mercredi son plus haut degré d'alerte en déclarant l'épidémie une urgence sanitaire mondiale. Pour un éclairage, Mouamadou Mfa, joint à Paris en France, le docteur Camille Bezoms, médecin infectiologue et épidémiologiste spécialiste en maladies tropicales.
Ce qui se passe en ce moment, on a plusieurs épidémies qui se passent en parallèle dans toute l'Afrique, donc ça rend très compliqué les choses. Donc il y a une première épidémie, celle dont on parle beaucoup, qui est donc en République démocratique du Congo, dans l'Est, notamment au Kivu, l'épidémie explose littéralement avec un grand nombre de cas et surtout avec l'apparition d'une transmission interhumaine par voie sexuelle notamment et au sein de réseaux de prostitution dans la zone. Cette épidémie-là, elle a donné naissance au clade 1B, donc un sous-type du virus qui montre l'adaptation du virus à cette transmission interhumaine. Et elle c'est ce qui est très inquiétant, c'est qu'elle s'est répandue dans les autres pays de la région est de la RDC, donc au Kenya, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Et ça, c'est très embêtant parce que c'est des pays qui n'ont jamais eu de cas de Mpox et qui se retrouvent avec des cas.
Comment expliquer cette résurgence et cette propagation de la maladie?
On peut l'expliquer par plusieurs choses. Avant, le monkeypox, c'est plutôt une maladie qui se transmet par transmission zoonotique, donc de l'animal vers l'humain. Et là, on est passé à une transmission interhumaine. Donc ça favorise l'augmentation du nombre de cas de monkeypox. Il faut aussi parler des causes économiques et écologiques. Hein. C'est pas pour rien que cette épidémie arrive au Kivu, qui est une zone qui est sujette à une forte exploitation minière. Hein. Les zones minières induisent des dégradations environnementales, hein, des déforestations et également des déplacements de travailleurs pour des raisons économiques. Et ces déplacements de travailleurs induisent aussi de la prostitution. Et puis, le Kivu, c'est aussi une zone en guerre civile, donc qui favorise des déplacements de population, des conditions économiques très précaires et également des conditions de santé et des systèmes de soins très précarisés.
Que doivent faire les gens au niveau individuel et collectif pour combattre la propagation de la maladie?
Quand on est dans les pays à risque, il faut éviter les contacts rapprochés avec des personnes qui ont des lésions cutanées suspectes et éviter les contacts sexuels également. Si on est parmi les personnes à risque, il y a la vaccination qui est disponible dans certains pays. Mais effectivement, le plus important, c'est au niveau collectif, hein, et j'insisterai vraiment là-dessus, les maladies infectieuses émergentes et le Mpox, c'est des maladies qui ont des causes en lien avec des facteurs, je le disais, socio-économiques et des facteurs écologiques. Donc il faut que collectivement, on prenne des mesures pour renforcer les systèmes de santé des pays qui sont concernés, hein, lutter contre la pauvreté qui cause forcément des problèmes, et puis surtout lutter contre les causes écologiques de ces maladies. Hein. Donc il faut cesser les dégradations environnementales, les différentes déforestations et exploitations qui amènent à ces émergences.
Docteur Camille Bézombe, spécialiste des maladies infectieuses. Le Wisconsin est l'un des trois États du Midwest que les républicains et les démocrates considèrent comme essentiel à leur campagne présidentielle. Ken Farabov, correspondant de la VOA dans le Midwest, s'intéresse à ce qui motive les électeurs du Wisconsin. Le récit avec Lionel Gaïma.
Lorsque la VOA a rencontré Gonzalo Perez, un restaurateur du Wisconsin en 2017, il s'attendait à une forte augmentation de son activité.
C'est mon billet de loterie.
En effet, l'entreprise taïwanaise Foxconn prévoyait de construire une énorme usine de fabrication d'écrans plats, non loin de là, employant jusqu'à 13 000 travailleurs. Perez pensait qu'il pourrait venir à son restaurant, mais ses rêves et les projets de Foxconn ne se sont pas réalisés. Aujourd'hui, l'usine Foxconn dans le sud du Wisconsin emploie moins de 1000 personnes.
La promesse n'a pas été tenue.
Au lieu d'un restaurant plein de clients, Perez doit faire face à des tables vides, à une pénurie du personnel, à une augmentation des coûts due à l'inflation.
L'économie est vraiment mauvaise pour nous.
Bob Whitkey est un représentant républicain à l'Assemblée de l'État du Wisconsin, dont la circonscription actuelle se trouve à proximité du restaurant de Perez et l'usine Foxconn.
Je pense que la vraie clé, lorsque les gens vont voter, est souvent de savoir comment faire face à la hausse des coûts.
Si l'économie est l'un des principaux sujets de la préoccupation des électeurs, il entend encore plus de frustration face à ce qu'il considère comme un manque de coopération bipartisane entre les législateurs.
Nous ne travaillons pas ensemble. J'entends les deux parties. Nous n'arrivons à rien.
Nick Ramos est le directeur exécutif de la campagne pour la démocratie au Wisconsin, qu'il qualifie d'organisation bipartisane dédiée à la bonne gouvernance. L'organisation a récemment participé à un effort fructueux visant à modifier les cartes de circonscription législative de l'État du Wisconsin. Les électeurs avec lesquels il s'entretient se disent préoccupés par l'avenir de la démocratie américaine.
My hope is that no matter who and...
J'espère que, quelle que soit la personne qui occupera le bureau ovale, ce sera quelqu'un qui s'engagera réellement auprès des citoyens et qui voudra essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir, non seulement pour sauvegarder la démocratie, mais aussi pour trouver des moyens de l'améliorer.
Le Wisconsin est aussi un État divisé que n'importe quel autre État du pays, mais les démocrates et les républicains s'accordent à dire que le succès de l'élection présidentielle dans cet État en novembre dépendra de la manière dont ils parviendront à faire participer leurs électeurs. Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle.
Alors, Wisconsin, aujourd'hui je te demande si tu es prêt à te mettre au travail.
Des récents sondages dans le Wisconsin indiquent que la candidate démocrate Kamala Harris dispose d'une courte avance sur le candidat républicain Donald Trump.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.